Moi, je pense que notre langue secrète, c'est la musique.
C'est très marrant parce qu'elle est secrète, mais en même temps, elle est complètement publique. Please let me explain.
C'était toute la difficulté pour elle que de passer après sa sœur. C'est pour ça que pendant les premières années, on dit toujours la fille de Garcia ou la sœur de la Malibran. Ça n'est pas facile de se faire une place quand on est toujours la sœur de quelqu'un.
Ce sont des gens qui ont l'âge de ma sœur. Or, elle était consciente de sa destinée très courte.
Si je te rencontrais dans une boîte et que j'étais un mec qui te draguait, par exemple, tu me dirais que tu fais quoi et que t'es qui. Alors d'entrée, je te dis moi, c'est la sœur de Nio.
La série musicale Zoé Sfez.
Bonjour, nous sommes ensemble comme chaque semaine en direct sur France Culture et ça c'est toujours aussi doux pour une émission libre, comme toujours, de toutes les matières, de toutes les provenances, de tous les styles, de tous les récits musicaux et familiaux. Une heure de radio sur la musique en musique, c'est la série musicale et bienvenue. Dernier épisode aujourd'hui de notre série Une affaire de famille, déjà 4 émissions que nous explorons les sons, les intuitions, les grandes œuvres de ceux qui partagent certes le goût de la musique, le goût d'en faire, mais qui partagent aussi et surtout les liens du sang. Après avoir exploré ce qui lie musicalement et humainement les fratries de garçons, les fratries de frères et de sœurs, les liens entre ces grandes dynasties, les dynasties musicales qui se sont déployées sur parfois plusieurs générations, après avoir aussi tenté de comprendre ce qui se joue entre les couples qui font de la musique, eh bien nous terminons cette série avec les sœurs qui, ensemble, ou pas d'ailleurs, pratiquent la musique. Ce lien sororal, il est si délicat, si fertile, mais si fragile, si difficile à dénicher. Et oui, dans la longue histoire de la musique, tant elle a longtemps mené la vie dure aux femmes. On le constate chaque semaine un peu plus dans cette série musicale. Pendant très longtemps, en réalité, les sœurs ont été absentes de la musique comme de la langue française, puisque je vous rappelle qu'il n'existe pas d'équivalent au mot fratrie pour les sœurs. On parlera donc aujourd'hui de fratrie féminine. Les sœurs qui pratiquent la musique ont longtemps été avant tout des interprètes qui ne maîtrisaient pas vraiment leur destin. Avant de le prendre, finalement, ce destin en main, en gros, à partir de la moitié du XXe siècle, qu'elles les fêtent ensemble, l'une contre l'autre ou l'une à la suite de l'autre. Force est de constater que les rivalités qui se sont jouées entre sœurs en musique sont bien plus saines et bien moins dramatiques que celles à l'œuvre chez les frères. On le verra dans cette petite galerie de portraits que je vous propose, fatalement subjective et bien sûr jamais tout à fait exhaustive dans la série musicale sur France Culture.
Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Toutes deux demoiselles, ayant eu des amants très tôt. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Nous fûmes toutes deux élevées par maman, qui pour nous se priva travailla vaillamment. Elle voulait de nous faire des érudites, et pour cela vendit toute sa vie des frites. Nous sommes toutes deux nées de pères inconnus, cela ne se voit pas, mais quand nous sommes nus, nous avons toutes deux au creux des reins, c'est fou. Là, un grain de beauté qu'il avait sur la joue. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Et ma la ritournelle, les calembours et les bons mots. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Nous sommes toutes deux joyeuses et ingénues, attendant de l'amour ce qu'il est convenu
d'appeler coup de foudre
ou sauvage passion. Nous sommes toutes deux prêtes à perdre raison. Nous avons toutes deux une âme délicate,
artiste passionnée,
musicienne,
acrobate,
cherchant un homme bon,
cherchant un homme bon.
Bref, un homme idéal, avec ou sans défaut. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Du plomb dans la cervelle, de la fantaisie à bobo. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Je n'enseignerai pas toujours l'art de l'arpège. J'ai vécu jusqu'ici de leçons de solfège. Mais j'en ai jusque-là, la province m'ennuie. Je veux vivre à présent de mon art à Paris.
Je n'enseignerai pas toute ma vie la danse. À Paris, moi aussi, je tenterai ma chance. Pourquoi passer mon temps à enseigner des pas, alors que j'ai envie d'aller à l'opéra.
Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Deux cœurs quatre prunelles à embarquer à l'Egretto. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Du plomb dans la cervelle, de la fantaisie à bobo. Nous sommes sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux.
Impossible pour la jumelle que je suis de ne pas ouvrir cette émission sur les fratries de sœurs en musique sans cette chanson des jumelles issue du film Les Demoiselles de Rochefort, puisque les visages des actrices Catherine Deneuve et Françoise d'Orléoc, qui étaient des fausses jumelles, des fausses musiciennes, mais de vraies sœurs à la ville, rejoignent évidemment dans notre imaginaire ces voix, celles d'Anne Germain et Claude Parent, qui les doublent sur la musique proprement génial, on peut le dire, de Michel Legrand, jouant du violoncelle, de la trompette ou du banjo, aimant la ritournelle. Dans ce film de Jacques Demy, bien plus féministe qu'il n'y paraît, les deux sœurs Garnier, qui sont les héroïnes du film, sont deux artistes en devenir, interprètes avant tout, et souvent reléguées dans le film d'ailleurs, à leur beauté dévastatrice, alors que finalement Solange, elle, rêve d'être pianiste, Delphine veut danser, mais en tout cas, elles font tout ensemble. Elles veulent notamment monter à Paris pour exister. Et c'est finalement en chantant leur propre chanson, la fameuse chanson des jumelles, qu'elles ont inventée dans l'intimité de leur lien sororal, qu'elles vont, en tout cas c'est ce que nous raconte le film, vraiment réussir à s'imposer.
Thank you.
ses sœurs musiciennes de fiction des Demoiselles de Rochefort nous ouvre en fait déjà pas mal des enjeux qui sont au cœur de ces histoires de fratrie de sœurs en musique. Elles sont évidemment toutes les deux très belles, hein, ces personnages de sœurs dans ce film, et tous les personnages masculins du film vont projeter sur elles leurs désirs. Mais il y a quand même ce personnage de Solange. Solange, c'est l'une des deux sœurs qui, pendant tout le film, compose un concerto. C'est celui que vous entendez ici. Elle le perd. Elle veut réussir à devenir une grande compositrice. C'est assez original pour un film des années 60, tant les compositrices à l'époque sont quasiment inexistantes. C'est évidemment Michel Legrand, à qui l'on doit la musique de tout ce film, qui écrit ce concerto fictif que vous entendez en ce moment. Concerto dans lequel il donne à voir quel immense compositeur de musique classique il sait être quand il le veut. Et ce faisant, en fait, Michel Legrand rend hommage à un duo de sœurs bien réel, lui, qui fut sans doute l'un des plus intéressants, l'un des plus importants aussi de l'histoire de la musique du XXe siècle, osons le mot, le plus important dans la vie de Michel Legrand, les sœurs Nadia et Lily Boulanger, surdouées et bouleversantes. Il est encore extrêmement agaçant de voir combien Nadia et Lily Boulanger restent si peu connues du grand public français, alors qu'à elles deux, de manière tout à fait différente, elles ont imprimé une marque durable, prodigieusement moderne à toute la musique du XXe siècle. C'est Nadia, l'aînée de ses deux sœurs. Elle naît à Paris en 1887 dans une famille de musiciens, puisque son père est le compositeur Ernest Boulanger. Il est déjà très âgé à l'époque, il a 72 ans. La mère de Nadia est une princesse russe très mélomane qui en a 40 ans de moins et qui 5 ans plus tard va offrir à Nadia une petite sœur, Lily, fragile dès la naissance. Les deux sœurs ont à peine le temps d'être un peu formées à la musique par leur père, qui va mourir 6 ans plus tard, qu'elles montrent déjà des dispositions musicales absolument exceptionnelles. Très vite, les amis de son père, de leur père, qui sont pour la plupart de très grands compositeurs, notamment Gabriel Fauré, vont enseigner la musique. C'est Nadia, l'aînée bien sûr de 5 ans, qui va ouvrir la voie. Elle joue du piano très bien, mais surtout elle écrit de la musique. Elle remporte à 21 ans un second prix de Rome, la distinction la plus haute en matière de composition. C'est déjà très original pour une fille. Mais comme tous, Nadia, très vite, va tomber en adoration totale devant ce que peut sa cadette, Lily, tellement plus jeune, tellement plus fragile, qui, malgré le fait qu'elle est la plupart du temps alitée, parvient à apprendre la harpe, le violon, le violoncelle, et surtout, sous l'influence de sa sœur, commence à composer avec une gravité et un génie absolument improbable et bouleversant chez une femme aussi jeune. Nadia la pousse, lui enseigne ce qu'elle sait de plus qu'elle, l'aide, l'encourage, finalement progressivement s'efface pour se mettre tout entier au service de cette sœur tuberculeuse et, on le sait, condamnée. À 20 ans seulement, Lily est la toute première femme de l'histoire à remporter le Grand Prix de Rome pour sa cantate Faust et Hélène. Pendant les 4 années suivantes, elle va composer compulsivement depuis son lit. C'est à Nadia qu'elle dicte sa toute dernière œuvre, Pie Jesu, bouleversant. Elle meurt à 24 ans seulement. Toute sa vie, Nadia lui vouera un culte absolu.
Elle était consciente de sa destinée très courte. D'une part, elle anticipait sur sa mort, bien plus tranquille que nous ne sommes aujourd'hui pour en parler. Mmh. Et elle avait été marquée à 6 ans par la douleur, car elle avait compris à la mort de notre père ce qu'elle perdait. Elle avait donné le meilleur de son cœur, de son activité, en des pensées d'une gravité qui eût été exceptionnelle si elle avait eu 20 ans et qui était bouleversante chez une toute petite fille, par ailleurs fragile, par ailleurs délicate, souvent malade, et éclairée par cette douleur. Je ne dis pas marquée par cette douleur, j'ai éclairé. Et dès ses 7-8 ans, elle avait toujours pensé à écrire une œuvre à la mémoire de son père. Et certains des thèmes sont trouvés dans les papiers de l'enfant qu'elle était.
Et c'était dur. Bon Dieu que c'était dur. Elle était un tyran, vraiment. Par son exigence, par le fait qu'elle ne pardonne absolument rien du tout. Rien n'était pardonné. Le bar était mis tellement haut.
Ça m'a donné un goût d'une rigueur. D'une rigueur classique. Et d'un sens critique, je crois.
Les principes sur lesquels elle a toujours insisté, se montre maintenant plus important que jamais.
Ah, si Bérard Arras, non.
Et moi, j'ai 58 ans, et j'étais comme un enfant, un étudiant de 21 ans, qui est venu pour étudier avec mademoiselle.
Le bouleversant Pie Jesu, composé par Lily Boulanger sur son lit de mort, dicté à sa sœur Nadia, dans une version que Nadia dirige elle-même. Nadia, qui après la mort de Lily, va absolument arrêter de composer. Sa sœur a fait le grand œuvre et elle n'a plus rien à faire. Vous entendez ici les voix des élèves de Nadia, Excusez du peu, vous avez entendu le grand chef d'orchestre britannique John Eliot Gardiner, l'immense Pierre Henry, compositeur, et le grand, grand Leonard Bernstein, qui furent quelques-uns des 1200 élèves que Nadia Boulanger a eu au cours de sa vie. Elle a cessé d'écrire, de composer, certes, mais elle se met compulsivement, après la mort de sa sœur, à enseigner, un peu comme pour prolonger ce lien dans lequel elle enseignait ce qu'elle savait de la composition à Lilly. Du monde entier, les élèves vont affluer, mais surtout des États-Unis. C'est elle qui va former tous les pionniers de la musique moderne, notamment américaine. Bernstein, Quincy Jones, Michel Legrand, Aaron Copland, mais aussi Astor Piazzolla ou Philip Glass disent tout lui devoir en matière de composition. Dormant à peine 4 heures par nuit, enseignant le jour, interprétant et dirigeant les œuvres de sa sœur morte le soir, Nadia meurt sans enfant à plus de 92 ans. Elle aura, comme sa sœur, donné absolument toute sa vie à la musique.
If you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme, guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar.
Oh, beat it, man, beat it.
Since the Yankee come to Trinidad, they got the young girls all going mad. Young girls say they treat 'em nice, make Trinidad like paradise. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar.
Oh, you vex me, you vex me.
From Chickachickery to Mona's Isle, native girls all dance and smile. Help soldier celebrate his leave, make every day like New Year's Eve. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar. In old Trinidad, I also fear the situation is mighty queer. Like the Yankee girl, the native swoon when she hear der bingle croon. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar. Out on Manzanella Beach, GI romance with Native Peach. All night long make tropic love, next day sit in hot sun and cool off. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar. Rum and Coca-Cola. Rum and Coca-Cola. Working for the Yankee dollar.
Les magistrales inoubliables Andrew Sisters dans l'un de leurs tubes, Rum and Coca-Cola, tube qui a accompagné pendant toute la Seconde Guerre mondiale les générations entières de GI américains qui l'ont exporté, ces chansons, dans le monde entier. Vous entendiez les trois voix de Patty, Laverne et Maxine, trois jeunes femmes qui sont le pur produit du rêve américain. Elles sont nées au début du XXe siècle d'un immigré grec et d'une descendante de pionniers norvégiennes. Elles sont les reines incontestées, 75 millions de disques disques vendus, de ce qu'on a appelé le swing en close harmonie, harmonie rapprochée, ce genre musical qui a dominé aux États-Unis dans les années 30 et 40, qui consiste à chanter une mélodie avec des harmonies donc très très proches, la plupart du temps au sein d'une même octave. Technique musicale découverte en fait au XVIIIe siècle par l'explorateur John Cook, qui avait assisté à son arrivée en Nouvelle-Zélande à des chants pratiqués par les Premières Nations. Il avait, à son retour en Angleterre, tenté de transposer cette technique musicale dans la musique religieuse. Et donc, tout au long du XIXe siècle, on se met à pratiquer la close harmonie à l'église, quand on chante Dieu, et puis fatalement en famille. Évidemment, plus les voix sont proches, plus le son est fluide, délicat, réconfortant, plus, d'une certaine manière, il remplit l'oreille. C'est donc extrêmement, extrêmement évident et fort quand ce sont des sœurs qui ont eu le temps de façonner, même de cultiver la proximité de leur voix, qui chantent ce genre de répertoire. À l'aube des années 30 aux États-Unis, on va adapter cette technique plutôt religieuse au chant swing. Ce sont les Boswell Sisters, pionnières en la matière, qui vont pour la première fois pratiquer le jazz, la classe harmonie dans le registre du jazz. Les Andrew Sisters vont reprendre le flambeau et elles deviennent la coqueluche du pays. Leur voix, comme leur visage en fait, se ressemblent parfaitement, elles sont belles, elles sont un peu comme la déclinaison de la même femme. Alors toute une foule de groupes vont émerger un peu dans cette tendance, les Peter Sisters, les Cordettes, les Beverly Sisters, en Italie on aura le Trio Lescano, en France les Dolly Sisters, toutes ces fratries de filles qui chantent ensemble incarnent une certaine image de la famille, qui rassure évidemment. Et puis aussi, elles sont une sorte d'objet du désir décuplé pour les hommes. Les Andrew Sisters ont fonctionné un peu comme des pin-up. Souvent, les hommes ont leur préféré. Leur voix et leur visage s'entremêlent si bien qu'en fait, elles sont presque un peu interchangeables. Et c'est souvent vrai des fratries de filles qui chantent jusqu'à la moitié du XXe siècle. Souvent d'ailleurs, quand l'une des sœurs quitte ce genre de groupe, elle est immédiatement remplacée par une chanteuse qui ne fait pas partie de la famille et dont on ne donnera jamais vraiment le nom, mais qu'importe. De ces groupes de close harmonie qui vont dominer le milieu du XXe siècle, émerge tout de même par sa singularité un groupe qui a aussi beaucoup séduit aux États-Unis. Elles s'appellent les Barry Sisters. Elles sont américaines, mais elles sont juives ashkénazes d'origine. Et après la Shoah, elles vont profiter de la popularité de cette close harmony swing pour mettre dans l'oreille des Américains et du monde entier un patrimoine klezmer qu'elles ont adapté, qui est celui qu'elles chantaient avec leurs parents quand elles étaient enfants. La 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 mir singin lo mir singin lo mir singin chiri bim chiri bom chiri bim bom 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 chiri bim chiri bom chiri bim bom 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 chiri biri 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 bim bom bom chiri biri 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 bom chiri bim bom 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 Lo mir singen kinderlach a zemer und zusammen an wegen de la freilichen mit werter lach fürs kramen die mami kocht a lockschen supp mit kasche in mit knädlach kinder jont if pieren wenn mir spielen sich in dreidlach chirbim chirbom chirbim bom 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 chirbim chirbom chirbim bom 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 Chiri biri 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 bim bom bom. Chiri biri 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 bom. Chiri bim bom 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 bom. Amul ist unser Revenue gegangen hinterwegen. Mit Amul hebt uns die Pluchen in Gießen a Regen. Schreit der Rebbe zu der Chmare her auf Gießen Wasser. Zene nalig si den tricken a reus no de refis a reus a nasser Chiribim, chiribom, chiribim bom 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 Chiribim, chiribom, chiribim bom 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 Chiribiri biri 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 bim bom bom Chiribiri biri 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 bom Chiribim bom 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 Men sucht das in dem Städtel hell im Leben nur nach Runen. Und mir sehen in die Kliege, haben mir a schönen Punen. Die Helmer lachen, tuge nachts, in Loch ist die Gaslunen. Nu sucht sie, wer ist narisch, in der sehnen die Chachunen. Chiribim, chiribom, chiribim, bom, 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 bom. Chiribim, chiribom, chiribim, bom, 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 bom. Chiri biri 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 bim bom bom. Chiri biri 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 bom. Chiri bim bom 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 bom.
la 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 la
Art Vergelaine, le rire des merveilleuses sœurs Goadec. Cette chanson raconte les péripéties d'une bergère. C'est un chant génial de ce patrimoine breton qui a été oublié, voire carrément réprimé, on peut le dire, du milieu du 19e siècle au début du 20e siècle, dans cette volonté très forte d'assimilation à la langue et à la culture française. Patrimoine redécouvert, réentendu grâce aux voix de ces trois sœurs, Marie-Yvonne, Eugénie et Anastasie. Trois bretonnes nées à Morlaix, filles d'un meunier et récipiendaires un peu par la tradition familiale de tout ce patrimoine folklorique très fragile, hein, effectivement, redécouvert dans les années 50, moment où, en Bretagne, eh bien, on se prend de la folie des fameux fest-noz, ces veillées nocturnes qui avaient lieu dans la Bretagne d'antan et qui, sous une forme modernisée, rencontrent un grand succès. Ces trois sœurs, qui ont plus de 50 ans, mais détiennent, hein, véritablement ce savoir, cette mélodie, cette langue qu'une nouvelle génération de Bretons est avide de découvrir, eh bien, elles deviennent presque par hasard de véritables vedettes de ces fest-noz où elles se produisent des nuits entières, quasiment jusqu'à la fin de leur vie. Un peu comme les Barry Sisters, ou comme les fratries de paysannes ukrainiennes que je vous avais fait entendre lors de notre série musicale sur l'Ukraine, comme aussi toute une série de duos de sœurs qui chantent de la folk ou de la country et qui rencontrent de nos jours toujours un grand succès aux États-Unis. En fait, les fratries de sœurs ont beaucoup eu cette fonction précisément, interpréter et transmettre un patrimoine culturel, musical, avec beaucoup de fidélité, on pourrait même presque dire de docilité surtout si on compare à ce que font ce genre de groupes groupes, quand ce sont des groupes de garçons et qui sont souvent, eux, ont à cœur d'innover. Dans le domaine vocal comme dans le domaine instrumental, les sœurs, en fait, ont souvent été sous influence. Elles sont, par exemple, omniprésentes, évidemment, dans les formations de musique de chambre, qui sont souvent des formations familiales, mais elles ont souvent été tenues à l'écart des grandes carrières de solistes. Ce sont souvent les seconds violons, les altistes. Heureusement, les choses ont commencé à changer, doucement, péniblement, certes, mais au cours des 50 dernières années, les choses bougent. On ne compte plus aujourd'hui les sœurs instrumentistes qui, dans la musique classique, se produisent ensemble. Il y a les sœurs Labeck au piano, il y a le grand succès rencontré par les sœurs Julie et Camille Berthelet, qui font le succès des grandes heures de télévision. Rares sont néanmoins les sœurs qui, ayant choisi des carrières de solistes, parviennent, à l'instar de Renaud et Gauthier Capuçon par exemple, à faire carrière séparément, mais au même niveau. Il n'y a si peu de place pour les femmes que c'est très difficile pour deux sœurs d'arriver à réussir chacune de son côté, mais à réussir vraiment. Les sœurs Nemtanou sont une exception merveilleuse, qu'il convient de noter. Toutes les deux pratiquent le même instrument, le plus terrible, le plus difficile, c'est-à-dire le violon. La première, Déborah, est violon solo aujourd'hui de l'Orchestre de Chambre de Paris. Et la seconde, Sarah, est simplement super soliste de l'Orchestre National de France, qui se produit souvent ici, dans notre grande maison de la radio. Et elle le raconte, pas de rivalité entre elles, mais bien entendu, des différences.
On n'a pas vécu du tout de la même manière notre parcours de violoniste. C'est vrai qu'à partir du conservatoire de Paris, c'est là qu'on est confronté un peu plus quand même au niveau de national et que c'est intéressant. Moi, j'adore le challenge. J'adore être entouré de gens qui jouent bien, qui m'inspirent et essayer de faire du mieux possible pour les impressionner. J'ai ce côté très coq. Et je dis coq parce que j'ai un côté féminin masculin. J'ai toujours aussi aimé être en pantalon, en smoking, sur scène. J'aime pas trop les robes. Et j'ai ce côté-là, c'est vrai, où ça m'aide énormément. Je suis dans le challenge. J'aime ça. Mais voilà, en tout cas avec ma sœur, parce que c'est le sujet. Peut-être parce que c'est la petite sœur, c'est vrai. Elle était plus dans mon sillon, effectivement. Elle a aussi voulu être violon solo parce qu'elle a vu que c'était aussi une opportunité extraordinaire de pouvoir gagner bien sa vie, et puis être chef quelque part. Mais quand je parle avec elle, parce qu'on parle très ouvertement, elle a moins bien vécu cette concurrence, entre guillemets, que moi. Certainement parce que je suis sa grande sœur, comme je l'ai déjà dit, et que elle se sentait peut-être un peu obligée de faire pareil et qu'on nous comparait forcément. Mais ça va très bien. Aujourd'hui, on fait du duo et on est très très heureuse de pas du tout presque avoir besoin de travailler ensemble pour monter des programmes, tellement qu'on est en télépathie.
Le concerto pour deux violons numéro 2 de Bohuslav Martinu, interprété avec brio par les deux violons de Sarah et Déborah Nemtanou, qui brillent chacune de leur côté dans leur orchestre et dans leurs projets musicaux, mais dont on entend effectivement l'immense complicité dans cette interprétation. Sarah et Déborah, qui n'ont jamais cédé à la rivalité, on nous compare tout le temps, disait Sarah Nemtanou. Et cette question évidemment se pose, comment ne pas tomber dans une rivalité malsaine quand, dans une fratrie de deux sœurs, l'une réussit avant l'autre. Il y a si peu de place pour les femmes dans un monde musical extrêmement machiste que si l'une réussit, l'autre n'a pas nécessairement la place pour exister, elle aussi. C'est un cas qui s'est posé plus loin de nous, dans une autre industrie musicale extrêmement puissante, celle de Bollywood, où une étoile brille depuis les années 40. Elle s'appelle Lata Mangeshkar. C'est la star absolue de la chanson à Bollywood. Elle détenait jusqu'à sa mort en février dernier le record absolu du nombre de films dans lesquels elle a interprété des chansons, plusieurs dizaines de milliers. Elle devient une star alors qu'avec ses frères et sœurs, elle chante lorsqu'elle interprète la musique du film Mandala, fille des Indes, film indien le plus vu de tous les temps, adoré notamment par Joseph Staline. Lata Mangeshkar, qui avec sa voix de soprane extrêmement délicate, va devenir en réalité l'interprète de toutes les chansons où il y a une genre première féminine. Autant vous dire la moitié de ce que produit Bollywood dans cette période extrêmement fertile de la fin des années 50 aux années 90. Et pourtant, Lata a une sœur pas du tout moins douée qu'elle, qui s'appelle Asha Bhosle. Évidemment, Bollywood, qui fonctionne un tout petit peu comme la royauté en Inde, désire absolument mettre en scène une rivalité, une jalousie terrible entre les deux sœurs. Il n'en était en réalité rien. Lors de la mort de Lata en février dernier, Asha a décidé de se retirer et d'ailleurs de démentir toutes les rumeurs. Nous avons toujours vécu dans le même appartement. Si moi-même j'ai pu chanter, c'est parce que ma sœur a toujours refusé de se séparer de moi, qu'elle m'a emmenée partout, à l'école, dans les studios. Lata, qui elle-même ne cessait de se plaindre à cause de moi, ma sœur, qui a peut-être encore plus de talent, a été presque éclipsée. Sachez qu'en tout cas, juste derrière Lata Mangeshkar, c'est bien sa sœur qui détient le deuxième record du nombre de chansons qu'elle a interprétées dans les films à Bollywood. Et d'ailleurs, à quelques rares occasions, elles ont chanté ensemble, comme dans ce film magnifique où deux femmes se partagent le même homme, mais finissent par devenir amies. C'était en 1984, dans le film où ils savaient écouter leurs deux voix se rejoindre. मन क्यों बहका रे बहका मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को बेला महका रे महका आधी रात को हो मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को बेला महका रे महका आधी रात को किसने बंसी बजाई आधी रात को हो किसने बंसी बजाई आधी रात को जिसने पलके हो जिसने पलके चुराई आधी रात को मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को बेला महका रे महका आधी रात को Les voix délicieuses de Lata Mangeshkar et de sa sœur Asha Bhosle qu'on vous invite à réécouter. Car c'est un patrimoine qu'on ne connaît pas assez, qui est pourtant absolument délicieux. Asha Bhosle qui, sa sœur le disait, l'égalait, voire la dépassait. Rivalité absconce. Mais comment faire pour égaler sa sœur quand elle a réussi en premier? Comment faire d'ailleurs pour égaler sa sœur quand elle est inégalable? Comment l'égaler quand on vous demande non seulement de faire aussi bien, de faire mieux, voire de la remplacer? La question se pose toujours quand l'aînée a ouvert la voie et que la seconde veut exister, comme Henriette d'ailleurs, la chanteuse Lio et sa petite sœur Elena Noguera.
Alors si je te rencontrais dans une boîte et que j'étais un mec qui te draguait par exemple,
Tu me dirais que tu fais quoi et que t'es qui?
Alors d'entrée, je te dis moi, c'est la sœur de Lio.
Tu crois que ça t'aide ou que ça te dessert d'être ma sœur?
Bah écoute, ça me sert et ça me dessert.
Et l'un dans l'autre.
C'est le dessert que sert la ballerine.
Si t'étais pas ma sœur, est-ce que t'aurais envie de chanter?
Et si t'étais bouchère, est-ce que je serais devenue bouchère?
Et le suspense.
On a quoi de différent et quoi de pareil?
On n'a pas la même taille, le même tour de poitrine.
On n'a pas les mêmes pieds. On a presque le même tailleur. Est-ce que tu crois que ce serait différent si on était sœur-sœur et pas demi-sœur?
Non, je pense pas.
Prendi per me sei libero, grand air de l'opéra du bel canto, grand classique, l'élixir d'amour, interprété ici par la cantatrice Cecilia Bartoli dans un album intitulé Maria. Cecilia Bartoli qui voue une adoration à celle qui fut sans doute la toute première diva, voire la toute première star internationale, Maria Malibran, cantatrice née en France d'un père compositeur et prof de chant, Manuel Garcia, qui était l'une des figures les plus importantes, notamment en termes de pédagogie du XVIIIe siècle. Il a deux filles, cet homme, la première, Maria, puis 13 ans plus tard, une deuxième, Pauline. C'est Maria qu'il forme inlassablement, avec une rigueur, une sévérité, voire une cruauté, diront certains, extrêmement forte, et qui fait d'elle, à 16 ans, l'une des chanteuses les plus douées, les plus admirées, pour sa voix incommensurable, impossible pour nous d'imaginer véritablement quel était le timbre de Maria Malibran. Cecilia Bartoli tente de nous donner à entendre ce que pouvaient être ses qualités vocales. Non seulement Maria est effectivement très douée, elle est aussi très belle. Elle va parcourir à un très jeune âge l'Europe avant d'aller aux États-Unis où elle fait carrière. L'une des recettes du Barbier de Séville dans lequel elle joue sera l'une des plus importantes recettes de l'histoire du Met. 3000 dollars à l'époque, c'est énorme. Elle revient en France, tourne dans absolument toute l'Europe avant de mourir à 26 ans seulement, laissant l'Europe, les États-Unis et tous ses fans dans une tristesse catastrophique, toutes ses affaires, toutes ses partitions, ses échanges à prix d'or sur les places de marché. Le père, Manuel Garcia, n'a qu'une idée. prendre la petite cadette, Pauline, qui est une pianiste surdouée, élève de Liszt, et en faire une espèce de copie de sa sœur. Pauline, qui chantait certes très bien et avait un timbre assez proche de sa sœur, est projetée cantatrice star avec la dure mission d'incarner, en tout cas de perpétuer l'héritage de sa sœur, qui était par ailleurs une véritable source de revenus importante pour la famille. Le personnage de Pauline est sans doute l'un des plus intéressants du XXe siècle. Elle est beaucoup moins belle que sa sœur, mais au moins aussi douée vocalement. Elle va devenir elle aussi la star laide de l'époque. Très vite, Alfred de Musset s'éprend d'elle. Elle devient très proche de George Sand. Elle composera. Cette activité de compositrice, qui était sans doute celle qui l'intéressait le plus, eh bien, c'est probablement celle qu'on a le plus oubliée. Néanmoins, aujourd'hui, plusieurs jeunes femmes, Cécilia Bartoli la première, ont à cœur de faire redécouvrir l'œuvre immense de Pauline Viardot, qui va mourir très âgée. Elle aura influencé tout au long de sa vie aussi bien la littérature, puisque George Sand s'est servi d'elle pour écrire ce qui, selon moi, est son meilleur roman, Consuelo, ainsi qu'Ivan Tourgueniev, qui toute sa vie sera amoureux d'elle et à qui on doit sans doute les plus belles pages de littérature. Écoutez, par exemple, cette mazurka composée par Pauline Viardot. Mazurka de Pauline Viardot, immense compositrice, condamnée à devenir l'une des plus grandes cantatrices du 19e siècle pour finalement perpétuer l'héritage de sa sœur, mais qu'on n'oubliera pas évidemment. Les exemples de sœurs qui ont dû se faire leur place sont nombreux. On pense évidemment à Solange, la sœur cadette de Beyoncé, qui après avoir tenté d'imiter le style de sa sœur a finalement fini par trouver, semble-t-il, sa propre voix. Quittons-nous avec l'un des duos de sœurs les plus intéressants de la musique actuelle. On le dit, elles sont jumelles, puisqu'on a ouvert avec des jumelles et qu'on vient sans doute de refermer cette émission avec ça. Ce sont les deux sœurs du duo IBI. Toutes les deux ont grandi dans un environnement éminemment musical. Elles sont les récipiendaires d'une culture à la fois vénézuélienne et tunisienne par leur mère et cubain par leur père, puisque leur père n'était autre qu'Anga Diaz, qui est un grand percussionniste de musique cubaine, notamment membre du Buena Vista Social Club. Elles ont grandi en somme dans une atmosphère musicale. Mais si leur musique est aujourd'hui sans doute aussi belle, aussi riche, aussi intense, c'est parce que finalement, c'est assez tard dans leur vie qu'elles ont trouvé ce lien musical qui les unissait, lien musical auquel elles rendent hommage dans leur tout dernier album paru en début d'année, et dans lequel elles évoquent pour la première fois directement leur lien sororal.
Ce groupe, il n'aurait pas existé si on n'était pas ensemble et si on n'était pas sœurs. Et donc, on s'est dit, non, ça y est, il est temps d'écrire cette chanson pour nous. Et puis, il est temps de dire et de le clamer fort. Et...
Qu'est-ce qui a écrit ce texte-là?
C'est Lisa qui l'a écrit.
Mais je l'ai écrit avec ta perspective aussi.
Ben oui. oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. En fait, c'est, je pense que c'est comme un peu toutes les relations en général. C'est pas que beau, et parfois c'est aussi plus compliqué, et je pense qu'en fait c'est ça, c'est on a essayé en tout cas d'être le plus vrai possible. Mais voilà, c'était une façon de nous célébrer, mais en même temps aussi parler des moments où on a pu se faire mal, où on a pu être en désaccord sainement, si je pourrais dire.
Mais je pense que c'est aussi devenu un hymne, c'est une chanson, on écrit des chansons comme des prières, on écrit les chansons dont on a besoin, on écrit les chansons qui nous donnent de la force, et on avait besoin de ça, de se dire « it's us despite it all », c'est nous deux envers tout, c'est « on y arrivera, regarde ce qu'on a fait », c'était ça en fait, c'est une chanson qu'on va chanter jusqu'à ce qu'on soit de petites vieilles sur scène.
C'est tellement ce qu'on vous souhaite, franchement.
Ah mais j'espère, mais c'est ce que je me souhaite. Et c'est une chanson qui nous rappellera toujours, à chaque concert, tous les jours, qu'on l'a fait, qu'on est là, on est ensemble et on s'aime.
Our love is underwater. I've cried all over you. Slow down, now we've grown. Let's start new.
C'est déjà la fin de cette série musicale, c'est toujours un peu trop court. Cette série musicale a été réalisée aujourd'hui par la merveilleuse Louise André, que je remercie pour sa présence tout au long de cette année. Elle a été mixée avec brio par Ludovic Auger. Je remercie aussi évidemment à la préparation et qui nous a trouvé de belles archives, Lou Quevauvillier. N'hésitez pas à réécouter cette série musicale et toute la série Affaires de Famille que vous retrouvez sur l'application de Radio France, toutes les bonnes applis de podcast. Je ne peux refermer cette série sans envoyer mes grandes salutations à ma sœur, Louise Fez.